Bonjour et bienvenue sur la LBB Radio, je m'appelle Jérémy.
Et moi, Aaron.
Aujourd'hui, nos 12 chroniqueurs vont vous présenter une émission en lien avec le recueil de nouvelles « Les soirées de Médan » que nous avons lu dans le cadre du cours de français.
Johan et Anthony vont d'abord vous parler des fameuses soirées de Médan, puis Axel et Océane vont vous présenter la biographie de Maupassant.
Ensuite, Mathieu et Thibault vont évoquer le contexte historique de l'époque.
Par la suite, Sarah et Gwendoline vont vous parler de la biographie de Huysmans.
Nos deux chroniqueuses, Émilie et Jasmine, s'intéresseront au mouvement artistique des années 1870-1890.
Ensuite, Noélie et Romain vous parleront de l'attitude du lecteur face aux nouvelles, avec une interview exclusive de Nathalie Gastouforé, professeure documentaliste au lycée.
Pour finir, nous entendrons des invités qui viendront nous présenter les chroniques littéraires qu'ils ont préparées autour des nouvelles du recueil.
C'est parti, commençons cette nouvelle émission avec Johan Anthony.
Bonjour, je suis Johan.
Et moi Anthony, et nous allons vous parler aujourd'hui des soirées de Médan. Pourquoi ce sujet ?
Eh bien, car c'est au cours de ces soirées qu'ont été écrites les nouvelles qui constituent le recueil « Les soirées de Médan » que nous avons étudié en français.
Pouvez-vous justement nous en dire plus sur ce recueil de nouvelles ?
Les soirées de Médan est un recueil collectif de 6 nouvelles, publiées le 15 avril 1880 chez Georges Charpentier, éditeur à Paris, réunissant Émile Zola, Guy de Maupassant, Huysmans, Henri Séard, Léon Hennig et Paul Alexis.
Nous avons étudié au cours les nouvelles naturalistes des soirées de Médan, réunissant Boule de Suif de Maupassant, L'attaque du moulin de Zola et Sac au dos de Huysmans.
Savez-vous dans quel contexte a été écrit ce recueil ?
En 1878, Émile Zola achète une maison à Médan, un trou charmant situé près de Poissy, en région parisienne. Alors considéré comme le chef de file des naturalistes, Zola y reçoit d'autres écrivains parmi lesquels Léon Hennig, Henri Séard, Huysmans et Maupassant. Dans ce lieu paisible où l'on discute art et littérature en prenant du bon temps, apparaît très vite l'idée de produire des récits que l'on soumettra à tour de rôle aux juments de ses pairs. Le thème choisi est la guerre de 1870. Le premier sera Zola qui racontera de vive voix l'attaque du moulin. Très vite, chacun s'attelle à la tâche et soumet à ses pairs le fruit de son labeur. Si l'histoire s'accorde à dire que le projet de soirée de Médan voit bien le jour à la fin de l'année 1879, Guy de Maupassant et Louis Hennig donnent une version différente de sa genèse. Selon Maupassant, il aurait été conçu à Médan un soir d'été. Il déclare ainsi en 1880 dans le journal Le Gaulois « Nous nous trouvions réunis l'été chez Zola dans sa propriété de Médan. On en vint à parcourir tous les conteurs célèbres et à vanter les raconteurs de vive voix. Paul Alexis prétendait qu'un conte écrit est très difficile à faire. »
Mais Zola trouva que c'était une idée qu'il fallait faire dire des histoires. L'invention nous fait rire et convainc pour augmenter la difficulté que le cadre choisi par le premier serait conservé par les autres, qui y placerait des aventures différentes. Zola trouva ces récits curieux et nous proposa d'en faire un livre. Selon Louis Hennig, l'idée aurait vu le jour, non pas à Médan, mais à Paris. Il a ainsi écrit dans la préface des cinquantenaires des soirées de Médan, « La maisonnette, le jardin s'arrondit, et nous sommes à la table d'Émile Zola dans Paris. » On se met à évoquer la guerre, la fameuse guerre de 70. Plusieurs des nôtres avaient été volontaires ou moblots. « Tiens, tiens, propose Zola, pourquoi ne ferait-on pas un volume là-dessus, un volume de nouvelles ?» Malgré les versions différentes, ce projet reste une histoire d'amitié littéraire, presque autant de littérature. Cela explique sans doute la qualité inégale des différentes pièces du recueil.
Toutes les nouvelles du recueil abordent-elles un thème commun ?
Oui, les 6 nouvelles traitent du même thème, la guerre franco-allemande de 1870 à 1871, dont Thibault et Mathieu vous parleront tout à l'heure. Les auteurs ont décidé, dans leur texte, de faire apparaître l'envers du décor de la guerre, comme par exemple l'absurdité des combats et la lâcheté de la bourgeoisie face aux occupants. Des points de vue novateurs pour l'époque, ainsi sur un mode alternatif, pathétique et ironique, les auteurs font battre des ailes au mythe, en vogue à l'époque, de l'héroïsme patriotique. Ces nouvelles constituent donc un véritable réquisitoire antimilitariste.
Comment ce recueil a-t-il été accueilli par la critique ?
L'ouvrage fit sensation dès sa parution, et le succès retentissant de Boule de Suif propulsa Guy de Maupassant sur le devant de la scène littéraire. Cependant, la presse accusa le recueil d'être un manifeste naturaliste, le manifeste d'une école. Si Maupassant s'en défend et si Hennig dément une telle volonté, Zola y a sans doute trouvé son compte, lui qui souhaite se démarquer des figures de deux maîtres, Hugo et Flaubert. Cependant, lire le recueil aujourd'hui permet de mesurer comment des écrivains réunis par des affinités littéraires parviennent à préserver l'originalité de leur style tout en affirmant un refus commun à l'hypocrisie bourgeoise, civile et militaire.
Merci Johan et Anthony de nous avoir éclairés sur ce sujet. Nous allons maintenant écouter Axel et Océane qui vont nous parler de la vie de Maupassant.
Bonjour Axel et Océane, pouvez-vous nous raconter l'histoire de Maupassant ?
Guy de Maupassant, alias Chaudron du Diable, est un écrivain et journaliste littéraire français. Il est né le 5 août 1850 au château de Miromesnil, à Tourville-sur-Arc. Il est mort le 6 juillet 1893 à Paris.
L'enfance de Guy est plutôt banale, il naît dans une noble famille d'origine lorraine. Il a notamment beaucoup voyagé durant sa jeunesse, ce qui lui permet de faire des descriptions précises des lieux dans ses romans et nouvelles.
Avant d'être écrivain, Maupassant était fonctionnaire à Paris. Parallèlement à une vie sportive et joyeuse, il fit son apprentissage littéraire sous la direction de Flaubert. Il lui imposa les exigences de l'esthétique réaliste. Il lui a aussi fait connaître Huysmans et Zola. Maupassant a écrit une centaine de nouvelles et 5 romans en seulement une décennie. Guy de Maupassant est un auteur réaliste. Il écrit généralement des romans, des nouvelles, des récits, des contes avec des textes courts.
Quelles sont les influences de Maupassant ?
Maupassant est influencé par Flaubert et comme beaucoup d'autres écrivains de l'époque. Flaubert est un écrivain français du 19e siècle, reconnu par son œuvre Madame Bovary. Après un démarrage lent, Guy de Maupassant a réussi à s'imposer comme l'un des écrivains majeurs du 19e siècle avec ses camarades Zola et Flaubert. En effet, il décrit un mode désespérant où il y a beaucoup d'égoïsme, de traîtrise, d'hypocrisie et surtout de cruauté. Maupassant considère l'homme comme une bête à peine supérieure aux autres. Maupassant refuse le mensonge romantique, il veut montrer la réalité telle qu'elle est, en mettant en scène des personnages ordinaires et non fantastiques. Sa règle est l'observation minutieuse du réel, son but, essayer le plus fidèlement possible de montrer la réalité observée.
Quelles sont ses œuvres les plus reconnues ?
La première nouvelle qui le fait connaître est Boule de Suif.
Pendant l'hiver 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen en Normandie est envahie par les Prussiens. Un groupe de personnes tente de s'enfuir, mais tout ne se passe pas comme prévu.
Une chronique littéraire vous sera présentée ultérieurement par d'autres chroniqueurs, ainsi que le contexte historique par Thibault et Mathieu. Son premier roman, Une vie.
En 1819, une jeune fille, Jeanne de Pertuis-Desvaudes, quitte son couvent rouennais pour regagner la propriété familiale des peuples, tout près d'Yport en Normandie. Pleine de rêves, d'amour et d'espérance de réussite, elle goûte une vie libre et saine auprès de la mère, sa fidèle compagne. Mais son père lui présente le vicomte Julien de Lamoire, un coureur de dot dont elle tombe amoureuse. Elle se retrouve mariée à 17 ans.
Ce roman assure sa notoriété et son aisance financière, mais c'est Belle Amie, autre roman réaliste qui apparaît comme son œuvre majeure.
Cette histoire retrace l'ascension fulgurante d'un journaliste sans scrupules, Georges Duroy, aux origines modestes qui se sert des femmes pour parvenir à ses fins. Petit employé sans le sou mais de fière allure et beau parleur. Il retrouve par hasard Forestier, un compagnon d'armes qui a réussi dans le journalisme.
Duroy arrivera-t-il à percer dans ce milieu difficile d'accès ?
Comment Maupassant s'est-il éteint ?
Son dernier roman s'intitule « Le Horla ». Maupassant l'a écrit au cours de ses dernières années d'existence.
Dans un journal intime, le narrateur rapporte ses angoisses et divers troubles. Il sent progressivement autour de lui la présence d'un être invisible qu'il nomme « Le Horla ». Il sombre peu à peu dans une forme de folie en cherchant à se délivrer de cet être surnaturel. Le Horla, un être surhumain, le terrasse chaque nuit et boit sa vie. Cette folie le conduira à de nombreuses actions, toutes plus insensées les unes que les autres. Il en viendra même à mettre le feu à sa maison et laissera brûler vif ses domestiques. Dans les dernières lignes de la nouvelle, face à la persistance de cette présence, il entrevoit le suicide comme ultime délivrance.
Aux hallucinations de l'Horla succéda les délires de Maupassant et il meurt après 18 mois d'internement.
Merci à vous, Axel et Océane, d'avoir partagé les grands moments de la vie de Maupassant. Poursuivons avec Mathieu et Thibault qui vont évoquer le contexte historique de l'époque.
Bonjour, nous allons dans un premier temps vous présenter les causes de cet affrontement franco-prussien. Dans un second temps, nous allons expliquer le déroulement du conflit et pour conclure, nous évoquerons les conséquences de ce conflit sur la société de l'époque. La guerre franco-prussienne de 1870 à 1871, ou plus familièrement appelée guerre de 70, opposa le Second Empire français au Royaume de Prusse.
Quelles ont donc été les causes de ce conflit ?
Les causes de cette guerre reposent sur la volonté de Bismarck de faire de la Prusse un seul et même État unifié. ministre de Prusse, il va profiter du contexte politique pour réaliser l'unité de l'Allemagne. Après avoir vaincu le Danemark en 1864, la Prusse bat l'Autriche à Sadova deux ans après et agrandit considérablement son territoire. La Prusse et certains États allemands s'unissent dans la Confédération d'Allemagne du Nord. C'est déjà un premier pas vers l'unité de ce territoire. Napoléon III ne veut pas admettre que la Prusse s'agrandisse et ne peut pas accepter l'existence d'un nouvel État outre-Rhin qui pourrait nuire à sa puissance. Bismarck cherche alors à pousser la France à la guerre. Il sait que les États du Sud s'allieront avec la Prusse en cas de conflit. Ensuite, une crise diplomatique fait craquer la France qui entre en guerre contre le Royaume de Prusse le 19 juillet 1870. Bismarck, de son côté, a tout fait pour pousser la France à la guerre qui, elle, n'attendait qu'une occasion pour affronter son puissant voisin.
Comment cette guerre s'est-elle déroulée ?
Dès l'annonce de la déclaration de guerre à la Prusse, l'opinion publique française s'enflamme. Des émeutes se créent sur les grands boulevards parisiens. En Prusse et dans les autres États allemands, la population s'élève contre les agresseurs français. La mobilisation se déroule avec efficacité en Prusse, mais l'armée française a du mal à rassembler des hommes et du matériel. Les deux armées ennemies se rassemblent aux frontières. L'état-major français, qui est en position de faiblesse, hésite à passer à l'offensive. Napoléon III prend Sarrebruck, qui est le plus petit des États prussiens, le 2 août 1870. Cette ville a été facilement conquise, mais elle a été abandonnée très rapidement. La presse française voit son armée forte et victorieuse à ce moment-là. Suite à cela, Moltke, le chef des états-majors des armées allemandes, décide de passer la frontière et d'attaquer l'armée française à la première occasion. Le 4 août, à Wissembourg, l'armée allemande passe à l'offensive. Ce fut une surprise totale pour les troupes françaises qui, ce jour-là, se font écraser par les forces allemandes. Le 6 août, les armées allemandes attaquent le général Frossard, posté avec ses hommes sur les hauteurs de Forbach, en Lorraine. Le général français doit s'avouer vaincu.
Cette guerre a-t-elle eu des conséquences sur la société de l'époque ?
La victoire de l'Allemagne sur la France marque l'achèvement de l'unité allemande qui était tant souhaitée par Otto von Bismarck. Les États du Sud entrent dans la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui devient alors l'Empire allemand. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, est nommé le 18 janvier 1871 empereur d'Allemagne dans le château de Versailles. Le Second Reich vient de naître. La sanction est lourde pour les Français. L'Alsace et une partie de la Lorraine deviendront un Reichsland, c'est-à-dire un territoire de l'Empire allemand. Et la France reconnaît devoir à l'Empire allemand la somme de 5 milliards de francs or. On comprend ensuite mieux l'esprit revanchard qui va naître chez les Français et expliquer leur engagement dans la Première Guerre mondiale.
Merci Thibault et Mathieu pour cet éclairage historique, très utile pour comprendre les nouvelles que nous avons étudiées.
Toujours sur la LBB Radio pour une émission spéciale sur le naturalisme.
Laissons maintenant place à Sarah et Gwendoline qui vont vous présenter la biographie de l'écrivain Huysmans.
Bonjour, est-ce que vous avez des écrivains préférés dans votre liste ?
Bonjour. Bonjour. Moi, personnellement, je dirais plutôt Victor Hugo.
Et toi, Gwendo, c'est quoi ton écrivain préféré ?
Moi, eh bien, à vrai dire, je crois me rappeler d'un écrivain que j'avais lu il y a déjà longtemps et que j'avais bien aimé. Il me semble qu'il appartenait au mouvement naturaliste. Par contre, cela pourrait vous choquer, mais j'avais entendu des rumeurs comme quoi il avait des pratiques religieuses particulières. C'était du satanisme, je crois.
Ah bon ? Sérieux ?
Oui, oui, mais je ne me rappelle que de détails. J'ai oublié son nom, mais je sais qu'il datait du 19e siècle et que j'aimais tout de même son écriture.
Je ne suis pas sûre, mais je pense peut-être savoir le nom de ton écrivain.
Ah oui, c'est qui ?
Je crois avoir étudié le domaine. Ce ne serait pas Maupassant ou encore Huysmans par hasard ?
Huysmans, oui, c'est ça, avec ses livres comme « Là-bas » ou « À rebours ».
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Georges Charles Huysmans, même si en vérité il s'appelait Georges Charles Huysmans, était en fait un écrivain et un critique d'art français. Il est né en 1848 dans une famille d'artistes à Paris. Et il avait un père néerlandais et une mère française.
Par contre, il est mort au même endroit en 1907 à cause d'un cancer de la mâchoire. Donc il a vécu pendant 59 ans.
Mais 59 ans, c'est pas beaucoup, non ?
Ouais, c'est pas beaucoup. Mais on est au 19e siècle et à l'époque, la moyenne d'âge variait entre 30 et 40 ans. Donc Huysmans, on pouvait dire qu'il était au-dessus de la moyenne.
Je me rappelle qu'il a vécu la mort de son père à l'âge de 8 ans. Néanmoins, de son enfance jusqu'à 18 ans, il continue des études en droit qui le feront rentrer au ministère de l'Intérieur. C'est un métier qui ne le satisfera pas vraiment au final. Et c'est à l'âge de 26 ans, en 1874, qu'il s'est réfugié dans l'écriture. Sa carrière est principalement celui d'un romancier et d'un critique d'art, même s'il a également été monographiste, nouvelliste et poète. En publiant son tout premier roman nommé « Marthe, histoire d'une fille à l'âge de 26 ans » et en rédigeant des comptes rendus de salons de peinture, il va s'intéresser au symbolisme, mais surtout, il devient ami avec Zola, qui est alors le chef de file du mouvement naturaliste.
Et c'est quoi le mouvement naturaliste ?
Le naturalisme, c'est comme le réalisme, c'est-à-dire qu'on cherche à décrire la société de façon objective, à la seule différence que le naturalisme va étudier l'environnement qui nous influence, et notamment parmi les classes défavorisées.
C'est là où Huysmans rencontre également Guy de Maupassant, Léon Hennig, Henri Sartre et Paul Alexis. Ils se réunissaient tous à la Villa de Médan, qui appartenait alors à Zola. Et ils ont publié ensemble, en 1880, le célèbre recueil naturaliste « Les soirées de Médan ». Huysmans a de son côté inséré sa nouvelle « Sac au dos ». Dans celui-ci, il partage son expérience de combattant pendant la guerre de 70 contre la Prusse.
Il va y rester toute sa vie avec Zola et ses amis ?
Non, il faut savoir que Huysmans a des considérations qui évoluent sans cesse. Il va donc rompre avec le naturalisme à l'âge de 36 ans et il le montre avec son œuvre « À rebours » en 1884, où il y a un personnage principal plutôt anti-héros. « À rebours » sera très important dans le mouvement décadentisme.
C'est un mouvement artistique qui naît lors du cynisme dû à la défaite française contre la Prusse. Le pessimisme de Huysmans le remet en question notamment sur le domaine de sa foi religieuse. En accord avec ses penchants décadents, il se convertit au satanisme en 1891.
Ah, nous y voilà.
Alors, c'est juste la parenthèse, mais on rabâche beaucoup de préjugés sensationnalistes sur le satanisme. Pourtant, il se décompose en différentes branches, et certaines peuvent être tout à fait acceptables comme le satanisme lavéen. Quant à Huysmans, il semble avoir appartenu au satanisme théiste, qui ressemble davantage à l'image dont les premiers initiés s'en font, c'est-à-dire avec des rituels de magie noire. Mais on peut deviner que derrière ce message, il cherche en fait à se rapprocher davantage des dieux. Pourquoi ? Eh bien parce que Huysmans semble être ennuyé de la société matérialiste, et donc il éprouvait une certaine fascination parce qu'il sortait du commun. De plus, le satanisme devint très à la mode chez la jeunesse fougueuse de la fin du XIXe siècle. Donc on pouvait supposer que Huysmans n'était pas le seul de l'époque.
Ah, mais c'est beaucoup plus compréhensible d'un coup. Et ça devient encore plus intéressant.
Mais du coup, qu'est-ce qui se passe après sa conversion ?
Après avoir abandonné le satanisme qu'il a emprunté un an, il se substitue au catholicisme traditionnel. Sa conversion est marquée par la publication des romans En route en 1895 et La cathédrale en 1898. Puis plus tard, à l'âge de 50 ans, il quitte les rues bruyantes de Paris pour s'installer dans un petit village près de Poitiers.
Il commence à se rapprocher de la fin de sa vie, non ?
En effet. Là-bas, il va continuer sa vie dans une abbaye locale du village, ce qui va lui inspirer sa dernière œuvre, nommée L'Oblat, en 1903.
Et c'est comme ça qu'il clôt sa carrière, revient à Paris et quitte ce monde un an plus tard, en 1904.
D'accord. Maintenant, c'est beaucoup plus clair.
Écoutez, vraiment merci, c'était très intéressant. Vous en savez beaucoup quand même.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de quoi.
Merci Gwendoline pour avoir partagé ta passion. C'était très intéressant et maintenant, on en sait beaucoup plus sur Huysmans.
On va maintenant écouter Émilie et Jasmine qui se sont intéressées au mouvement artistique des années 1870-1890.
Bonjour, dans cette chronique, nous allons vous parler de l'impressionnisme, du réalisme et du naturalisme, mais dans le domaine artistique. Nous allons tout d'abord définir ces trois mouvements avant d'aborder quelques tableaux représentatifs de chacun d'eux.
Que pouvez-vous nous dire sur l'impressionnisme ?
L'impressionnisme est un mouvement pictural né de l'association d'artistes de la seconde moitié du 19e siècle vivant en France. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement se manifeste notamment de 1874 à 1886 par des expositions publiques à Paris et marquera la rupture avec la peinture académique. Ce mouvement pictural est principalement caractérisé par des tableaux de petit format, des traits de pinceau visibles, l'utilisation d'angles de vue inhabituels, une tendance à noter la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux plutôt que l'aspect stable des choses, et à les reporter directement sur la toile. L'impressionnisme eut une grande influence sur l'art de cette époque. La peinture, bien sûr, mais aussi les arts visuels comme la sculpture et la photographie.
Avez-vous un exemple d'artiste avec une de ses œuvres ?
Claude Monet est un peintre qui nous illustre bien ce mouvement. Son tableau Les Coquelicots est très lumineux. Au premier plan, la couleur rouge des coquelicots attire l'œil et sont en contraste avec la prairie dans laquelle évoluent une dame et sa fille. On a même l'impression que ces deux personnages avancent vers nous tant le mouvement est bien exprimé par le pinceau de Monet.
Quant au réalisme, pourriez-vous un peu nous le définir ?
Le réalisme est un mouvement artistique né vers 1848 en France sous l'impulsion de Gustave Courbet. Ce mouvement affirme sa différence face au romantisme et se caractérise par une quête du réel, une représentation brute de la vie quotidienne et l'exploration de thèmes de la société. Le réalisme ne se limite pas à la peinture, c'est un courant qui rassemble des artistes soucieux de faire œuvrer et de montrer le réel sans jamais l'idéaliser.
De quelle œuvre aimeriez-vous nous parler ?
Gustave Courbet et son tableau « Un enterrement à Ornon » illustrent bien ce mouvement. Au premier plan, on peut voir une fosse, quelques personnages tels un noble, le fossoyeur et le prêtre, les enfants de cœur et enfin un chien. Au second plan, on peut observer un groupe dont la majeure partie est composée de femmes, vêtues de noir et positionnées de dos. L'autre partie est constituée de membres de l'église et de porteurs. À l'arrière-plan, on aperçoit au loin des falaises de calcaire, beaucoup de roches, sans trop de végétation. Les couleurs du tableau sont ternes, juste le rouge du clergé et le blanc des porteurs, des enfants de cœur et du chien ressort. Le thème de ce tableau illustre bien la vie quotidienne sans la moindre volonté d'idéalisation de la part du peintre.
Parlons maintenant du naturalisme. Je laisse la parole à Jasmine.
Le naturalisme fait suite au réalisme pictural, mais il met longtemps à convaincre le public. Il en reprend surtout les traits et choisit de mettre en scène des paysans, des ouvriers, des pauvres et des bourgeois, en ville et à la campagne, au travail, en société, dans leurs pratiques religieuses, et donne une importance primordiale aux motifs de la nature. Il se positionne en faveur du peuple et du monde ouvrier. Le naturalisme est finalement un détournement du réalisme social où l'art devient moins polémique, car la nature adoucit en quelque sorte la polémique.
Émilie, peux-tu nous parler d'un tableau qui illustre pour toi ce mouvement ?
Jean-François Millet et son célèbre tableau « Les glaneuses » met en scène trois femmes travaillant dans les champs. Ce tableau suggère leurs difficiles conditions de travail, mais le motif de la nature et les couleurs utilisées par le peintre tendent à faire apparaître aux spectateurs de l'œuvre des conditions de travail de ces femmes moins dures.
Merci à vous les filles pour cette présentation intéressante de ces mouvements artistiques en peinture.
Noélie et Romain vont maintenant nous parler de l'attitude du lecteur face aux nouvelles, avec l'interview de Nathalie Gastouforé, professeure documentaliste au lycée.
Bonjour à tous, nous sommes Romain et Noélie et nous souhaitons aujourd'hui vous parler des différences de réception entre la lecture d'un roman et la lecture d'une nouvelle. Dans le pays riche et diversifié qu'est la littérature, deux genres se font face, le roman et la nouvelle. L'un est long, l'autre est court, l'un privilégie le développement et l'autre la brièveté. Mais lequel est le plus susceptible d'obtenir l'adhésion des lecteurs s'il faut choisir ? Avec deux genres aussi divers que le roman et la nouvelle, nous sommes obligés de nous poser la question roman ou nouvelle. Bien sûr, tout lecteur a le choix de lire les deux. Lire un roman ou une nouvelle apporte perpétuellement son lot de satisfaction, mais pas toujours le même. Avant toute chose, nous allons voir quelles sont les caractéristiques de ces deux genres.
Romain, comment peut-on définir un roman ?
Un roman est souvent une œuvre de plus de 150 pages, qui met en scène un héros qui va traverser un certain nombre de péripéties avant le dénouement final. L'histoire de ce héros et sa psychologie nous sont longuement dévoilées au fil des pages. À mesure qu'il vit ses nombreuses aventures, nous trouvons dans un roman de nombreux personnages secondaires qui aident la progression de l'histoire et qui peuvent souvent être eux aussi développés psychologiquement, ce qui permet aux lecteurs de s'attacher également à eux, car une histoire ne tient pas qu'aux personnages principaux.
Noélie, peux-tu à ton tour nous parler de la nouvelle ?
La nouvelle, quant à elle, est bien plus concise. Elle ne fait souvent pas plus de 50 pages, même s'il existe toujours des exceptions, et elle centre l'action sur un événement précis. L'auteur ne peut pas se permettre de s'épancher trop longuement sur le passé des personnages, et souvent les personnages secondaires se comptent sur les doigts d'une seule main. Ainsi, et dès les premières lignes, un élément perturbateur prend place dans le récit, et ce sont ses conséquences que l'auteur relate dans tout son texte. Dans le roman, l'élément perturbateur se manifeste souvent entre le premier et le deuxième chapitre.
Merci, nous allons maintenant écouter Madame Gastouforé, professeure documentaliste au lycée. Romain et Noli lui ont posé des questions sur son expérience de lectrice de nouvelles.
Quelles sont vos attentes face à un roman et face à une nouvelle ?
Alors, de la lecture en général, que ce soit un roman ou une nouvelle, moi, j'attends qu'elle me permette de m'évader de mon quotidien et qu'elle m'emporte vers un ailleurs. Alors, effectivement, cela ne se fait pas de la même manière dans un roman ou dans une nouvelle. Le roman est beaucoup plus long. Donc, quand je lis un roman, moi, j'espère qu'il va m'amener à la rencontre de personnages, des personnages singuliers avec lesquels j'espère avoir le plaisir de passer un bon moment. J'apprécie également lorsqu'un écrivain me fait découvrir un lieu, un milieu, une époque que je ne connais pas. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au plaisir des rencontres et des découvertes s'ajoute aussi le plaisir de la lecture proprement dite, c'est-à-dire le plaisir des mots du style de l'écrivain et qui met en valeur, qui sublime, on peut dire, son histoire. Alors, pour une nouvelle, effectivement, l'attente est un peu différente, car c'est un texte court, en tout cas plus court qu'un roman. Donc, il faut qu'en peu de temps, l'auteur arrive à capter notre attention, enfin l'attention du lecteur, et que ses personnages et son récit soient bien définis en peu de mots. Et donc, j'imagine que c'est un exercice assez difficile pour les auteurs. Mais moi, donc, j'attends d'une nouvelle que ce soit un texte fort, percutant, et qui, dès les premières phrases, aille vraiment droit au but.
D'accord, merci.
Et avez-vous déjà été amené à rencontrer des auteurs ?
Alors oui, j'ai eu la chance de rencontrer quelques auteurs et au fil des différents projets menés au lycée. Par exemple, en 2016, nous avons participé au prix Goncourt des lycéens avec une classe. Et nous avons eu la chance de rencontrer pas mal d'auteurs qui étaient en lice donc pour le prix Goncourt. Et notamment, nous avons rencontré le lauréat Gaël Faye et Leïla Slimani. L'année dernière, nous avons participé également au prix Méditerranée des lycéens. Et ce prix nous a permis aussi de rencontrer son lauréat, qui était Sébastien Spitzer. Bon, ça, c'était des auteurs de romans, principalement. Pour les auteurs de nouvelles, nous participons aussi chaque année au prix lycéen de l'encrier renversé, qui élit un auteur de nouvelles francophone. Et donc, chaque année, le lauréat vient à la rencontre des élèves au lycée. Et donc, c'est l'occasion d'échanger avec lui sur le genre de la nouvelle, sur l'écriture de ce genre qui, on peut dire, est particulier puisqu'il n'est pas très développé en France. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent des nouvelles en France, mais il est vrai qu'il n'est pas aussi développé que dans d'autres pays du monde. Et donc, cette rencontre avec ces auteurs de nouvelles est toujours un moment très, très intéressant à tout point de vue. Point de vue littéraire, bien sûr, mais au point de vue humain, on rencontre des gens très, très intéressants. Et d'ailleurs, l'année dernière, le lauréat, qui était Philippe Pillard, a répondu à une interview pour la web radio. Et cette interview, elle est toujours en podcast sur l'ENT, donc vous pouvez aller l'écouter.
D'accord.
Merci. Et si vous aviez un auteur nouvelliste à nous conseiller, ce serait lequel ?
Oula, alors, un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est une écrivaine, on va dire une écrivaine canadienne, qui s'appelle Alice Munro, qui a écrit de magnifiques recueils de nouvelles. Et cette auteure est d'ailleurs considérée comme la maîtresse de la nouvelle contemporaine. Et elle a eu le prix Nobel de littérature en 2013. Et voilà, elle a une écriture magnifique, très travaillée, très élégante. Je citerai quand même aussi un auteur français qui est Éric-Emmanuel Schmitt, qui a également écrit de nombreux recueils de nouvelles. Et voilà, alors souvent dans ces recueils, les nouvelles sont reliées par un thème commun, toujours une thématique. Et moi, j'aime beaucoup son écriture, qui est très simple, mais très sensible et qui souvent amène des réflexions sur notre existence, sur le monde qui nous entoure. Enfin, c'est un auteur que j'aime bien.
Merci, merci pour votre témoignage.
Avec.
Nous allons également donner notre propre avis. Pour ma part, j'ai toujours préféré les romans aux nouvelles, car j'ai plus de choix de rattachement au niveau des personnages. J'aime avoir la chance de m'identifier à un personnage et imaginer son avenir. J'ai particulièrement aimé la lecture de Nos étoiles contraires de John Green, et je le conseille aux adolescents car les personnages sont eux-mêmes des adolescents à qui on peut retrouver certains traits de caractère qui nous sont propres.
Quant à moi, c'est tout l'inverse. Je préfère les nouvelles aux romans parce qu'on a plus l'occasion de s'intégrer dans l'histoire car elle est plus courte. Cela est plus compréhensible car il y a moins de personnages. Par exemple, quand j'ai lu Pierre et Jean de Maupassant, je me sentais dans le personnage de Jean lorsqu'il lui lègue un héritage. J'avais l'impression de vivre avec lui cet héritage car il n'y avait pas de personnage parasite qui m'embrouillait.
Merci Romain et Noli pour cette chronique. Maintenant, passons à la chronique littéraire de Hicham et Hugo.
Da, 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 da. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle qui s'intitule « L'affaire du Grand Sept » de Léon Hennig, qui a été publiée en 1880. Lors de la guerre de 1870, dans une modeste ville, se trouve une caserne de soldats. Leur principal passe-temps est de se rendre au cabaret de la ville, le Grand Sept, lieu dans lequel les soldats viennent se détendre pour boire et rencontrer des filles. Or, un soir, un soldat rentre du cabaret grièvement blessé, en effet, il a été tabassé, et demande de l'aide à ses camarades qui décident, dans un esprit de vengeance, de retourner au cabaret. Dans cette nouvelle, le thème abordé est l'armée, mais l'auteur nous montre une image inattendue de la vie de régiment et des divertissements des militaires. On a l'impression que l'auteur veut critiquer sévèrement les soldats, ils ne pensent qu'à s'amuser et à se battre. Ils partent pour une expédition punitive sans la moindre réflexion. En effet, ils ont soif de vengeance alors qu'ils sont censés représenter l'ordre. Les soldats sont généralement considérés comme des héros faisant la justice. Or, dans cette nouvelle, ils sont vus comme cruels, sans empathie et violents, ce qui fait scandale à l'époque. Ce qui est étonnant, c'est que même si l'histoire se passe en 1870, on ne parle jamais de la guerre, mais d'une bagarre généralisée dans un cabaret mal fréquenté. Il n'y a aucun héroïsme, la situation est ironique et presque drôle, car les soldats entrent au cabaret pour se venger et finissent par se punir eux-mêmes en ravageant celui qu'ils aiment.
L'auteur veut donc nous faire réfléchir sur la violence, sur la vengeance, pour nous montrer qu'elles ne sont jamais les bonnes solutions à un problème. Ce qui nous a plu, c'est qu'il y a beaucoup d'action dans cette nouvelle et qu'elle est assez brève. C'est un texte simple, le vocabulaire est courant et il n'y a pas besoin de lire toutes les notes de bas de page. Les personnages ne sont pas très approfondis et complexes, ils se ressemblent tous. De ce fait, on ne peut pas vraiment s'identifier à l'un d'entre eux. Il y a aussi de nombreux dialogues qui ralentissent un peu l'histoire, même s'ils sont faciles à comprendre. On conseille cette nouvelle à tous ceux qui aiment les lectures courtes et simples et à ceux qui aiment l'action et le combat. Ceux qui s'intéressent à la guerre de 1870 et aux conditions de vie de l'époque peuvent aussi lire ce texte. On la déconseille à ceux qui veulent faire carrière dans l'armée car l'auteur donne une très mauvaise image des soldats. Attention à ceux qui n'aiment pas la violence car il y a des scènes assez cruelles lors de l'attaque du cabaret.
Merci à vous Hicham et Hugo. Pour finir, laissons place à Célia, Chloé et Manon pour leur chronique.
Une nouvelle de Paul Alexis qui s'intitule « Après la bataille ». Premièrement, nous allons aborder le thème principal, puis un résumé rapide. Nous reviendrons sur les différents personnages de façon plus approfondie et enfin, nous parlerons des points positifs et négatifs de la nouvelle. Trois thèmes dominent dans cette nouvelle. L'amour qui est central et autour duquel viennent s'accrocher des thèmes de second plan, comme celui de la religion évoqué de nombreuses fois, celui du poids du passé sur le présent, dans les conséquences qu'il peut entraîner. Enfin, la guerre qui ici ne fait que poser le cadre historique.
Cette nouvelle de Paul Alexis que l'on peut classer dans le naturalisme nous plonge dans la guerre de 1870. Gabriel, un prêtre soldat, est grièvement blessé. C'est alors qu'il fait une rencontre inattendue, Edith, une civile qui ramène le corps de son mari dans sa région natale. Edith vient en aide aux soldats, mais leur passé ne risque-t-il pas de les rattraper ?
Gabriel, âgé de 28 ans, est un jeune prêtre soldat. Durant son enfance, il est tombé amoureux d'une jeune fille nommée Maria, un amour irréalisé qui lui a brisé le cœur et qui le poussera à avoir une attirance pour les femmes, tout aussi retenue par une enfance très religieuse. Ces facteurs ont créé une frustration permanente dont il aurait peut-être souhaité se débarrasser. Edith, élevée tout comme Gabriel religieusement, a été mariée une première fois avec son cousin, mais ce mariage n'étant pas un mariage d'amour ne la rendit pas heureuse. Celui-ci partit à la guerre et mourut là-bas, la laissant pour veuve. Cette femme a toujours idéalisé l'amour, le vivant à travers ses romans d'amour, se comparant même à Roméo et Juliette.
Elle a développé elle aussi une frustration de bonheur, tout comme Gabriel, qui nous ramène à notre résumé et notre question principale. Leur passé ne risque-t-il pas de les rattraper ?
On conseille cette nouvelle à ceux qui aiment les histoires d'amour, se laissant porter par le récit, et ceux qui peut-être aiment l'originalité ainsi que des actions imprévues, comme dans cette nouvelle, après la bataille. De plus, cette nouvelle est relativement courte, avec peu de personnages, ce qui peut être un point positif et important pour certains. A l'inverse, on déconseille à ceux qui n'aiment pas l'histoire et le thème de la guerre. La description est quelquefois un peu longue et pourrait ennuyer certains lecteurs de par le manque d'action. Enfin, le vocabulaire est relativement soutenu, ce qui peut être gênant pour la compréhension totale du texte.
Merci Célia, Chloé et Manon pour votre chronique.
Nous vous remercions d'avoir assisté à cette émission radio en espérant qu'elle vous ait plu.
Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d'année en espérant vous avoir donné envie de lire ces nouvelles.
Nous vous donnons rendez-vous au mois d'avril pour de nouvelles émissions de la fameuse LBB Radio.